La prospérité, c'est quand on mange bien aussi. Voilà. Alors, ça fait un moment que ça tournait dans ma tête, que je voulais prêcher spécifiquement là-dessus. Alors, vous l'avez peut-être senti venir, hein, parce que ça fait un moment que dans mes réponses ou dans des commentaires, ça ressortait. Voilà. Je voulais parler de la doctrine de prospérité, mais pas juste 5 minutes, vite fait, au détour d'un verset. Je veux le faire comme j'aime bien le faire, hein, de fond en comble. Donc on va étudier ça. Vous voyez qu'il y a un petit 1 à côté de doctrine de prospérité. Ceci, on le fait de fond en comble, je ne peux pas le faire en une fois. Voilà. Donc on est parti pour un petit moment. Alors si vous en avez marre, vous me le dites. Hein. Si vous n'avez pas le dire, vous le dites à Maï ou à un autre ancien. Et il me dira, voilà, écoute, ça fait déjà 7 fois, il y en a marre. Change de thème. Et là, je demanderai au Seigneur s'il faut que je change ou pas. Ça va tourner autour de ça sans être tout le temps la même chose, parce qu'en fait, la doctrine de prospérité, c'est tout un tas d'aspects. On va les voir ensemble. Hein. Aujourd'hui, c'est qu'une présentation générale, mais on va parler typiquement de l'alliance avec Abraham, qui est utilisée par la prospérité, la loi de la semence et de la récolte. On va parler de la santé, de la souffrance. Voilà, c'est des thèmes qui sont un peu différents, mais qui se raccordent tous à ce point-là, en fait. Alors, quand j'avais déjà commencé à me documenter un petit peu, hein, cet été, quand on est parti en vacances en Alsace, hein, avec ce beau château que j'avais montré au mois d'août, j'ai toujours pas été payé d'ailleurs, hein, par l'Office du tourisme d'Alsace, mais tant pis. On a été accueilli par la propriétaire du gîte quand on est arrivé là-bas, et on flash forcément, hein, quand on est chrétien, on peut pas s'en empêcher, sur un tableau avec un cep et je suis le cep. Il y avait vraiment que ça, hein, pas de mention biblique, rien, de souvenir. On dit, ah, bah, c'est dans la Bible ça. Et puis la propriétaire, elle fait bah oui, et puis voilà, on se rend compte du coup qu'elle est chrétienne. Donc c'est bien, ça fait un premier lien. Hein. Et donc, bah, nous, on avait déjà regardé, hein, pour aller dans une église. Il y avait une petite église, pas très grande, mais voilà, pas très loin non plus, et qui avait l'air d'être pratique. Et cette dame nous invite, mais pas dans celle-là. Elle nous dit bah non, celle-là, j'y vais plus, on y allait pendant longtemps, mais on avait besoin de voir quelque chose de nouveau, de changer un peu, c'était trop calme, quoi, et voilà, on avait besoin de changer. Et donc elle dit maintenant, on va dans celle-là, qui était plus loin à Colmar, hein, de souvenir. Elle dit là, il y a un peu plus de musique rythmée, voilà, ça bouge un peu plus, ça, voilà, maintenant on vient dans celle-là, donc on vous invite à celle-là. Bon, moi déjà, quand on me dit ça bouge un peu plus, piouf, ça descend au classement, et je me dis, bof. Donc voilà. On n'y est pas allé. Et puis, bon, un peu plus tard dans le séjour, on est invité par les propriétaires à aller juste boire un petit truc avec eux en fin d'après-midi. Et là, la dame, elle nous dit, bah, en fait, dans l'église où on va, la phrase qu'elle nous a dit, c'était, alors on découvre que son monsieur, il est malade. Et en fait, il est malade au point de plus pouvoir bouger quasiment. Elle lui donne une paille pour qu'il boive, elle lui donne les choses dans sa main, il a du mal à la tenir, enfin, vraiment compliqué. Et on demande à ce monsieur, on dit, bah, ça fait longtemps que vous êtes comme ça. Et il dit, bah, le verdict qui est tombé dans les années 90 quand on m'a dit que j'avais une sclérose en plaques. Et on dit, merci Seigneur pour Marie-Jeanne parce qu'elle n'en est pas encore là et le Seigneur l'a maintenue. Parce que c'est les années 90 aussi, hein, notre chère Marie-Jeanne. Et voilà, le Seigneur, elle a gardé capable encore de se déplacer un peu chez elle, de faire les choses par elle-même. Donc c'est une première grâce. Donc voilà, monsieur, il nous parle de sa maladie. Et la dame nous dit, bah, on nous dit qu'on manque de foi, en fait. C'est parce qu'on n'a pas assez de foi qu'on n'est pas guéri. Et là, deuxième drapeau qui se lève dans ma tête, dit, ça sent pas bon, ça. Et en fait, quand on est allé dans cette église, la petite église, hein, où c'est calme, y a pas, ça bouge pas beaucoup, le monsieur qui nous accueille, il nous dit, ah bah oui, je les connais, les propriétaires, ils sont partis de l'église, ils vont dans une autre, mais bon, vous savez, cette église, elle est bizarre. Bon, c'est un monsieur qui vient de je sais plus où, Amérique du Sud, il loue même un hélicoptère pour aller proclamer que la ville appartient au Seigneur au-dessus de Colmar. Voilà, il y a des questions d'argent, des miracles à foison, voilà. Voilà, tout, dernier drapeau, hein. En fait, c'était dans l'autre sens. On a vu ce monsieur avant de voir les propriétaires. Et voilà, et c'est juste cette doctrine de prospérité, en fait, on en entend parler partout. Quand on est chrétien, hein, les gens du monde font peut-être pas trop gaffe, ou alors ils regardent un reportage d'Arte ou quelque chose comme ça, et puis mince, c'est ça les évangéliques. Hein. Mais l'objectif de ce que je fais ce matin et les N dimanches derrière, c'est qu'on soit capable, quand on lit un truc, quand on entend quelque chose, de dire, ah, un petit drapeau qui se lève, ça, c'est pas une bonne chose. Et je vous assure, c'est insidieux. On lit des fois des choses et au début, on percute pas. Et bon, pour avoir passé un bon moment à préparer tout ça, Maintenant, je lis des textes et d'un seul coup, il y a un mot, deux mots, il dit « Ok, c'est bon, je sais, c'est ciblé. » Après, on va chercher l'auteur, on dit « Ouais, c'était ça. » Et l'objectif, c'est de vous équiper pour reconnaître ce discours-là et le fuir comme la peste. On pourrait se dire « C'est qu'une question, c'est une doctrine, on n'entend jamais parler, on ne la voit jamais. » Mais en fait, on en a partout. Il y a des églises sur l'île, en fait, hein, qui sont là-dedans, vraiment pas loin de chez nous. Et on peut vite se retrouver à avoir même des choses dans nos enseignements, on pourrait même avoir ça ici, hein, c'est vicieux, qui ressortent comme ça dans nos enseignements, des petits points par-ci, par-là. Et en fait, c'est pas la prospérité à 100%, mais il y a déjà des germes, il y a des petits quelque chose qui viennent dans ce qui est dit. Et il faut le reconnaître et il faut couper ça avant que ça porte du fruit. Alors, je suis obligé de donner mes sources, hein, parce que vous allez croire que ça vient de moi, c'est pas le cas. Il y en a beaucoup. Il y a un livret du CNEF qui est très très bien fait, hein, la théologie de la prospérité, ça fait 26 pages, ça se télécharge gratuitement sur internet, il est bien fait, alors c'est dense, hein, mais il y a toutes les infos dessus, les principales c'est des sous-doctrines, on pourrait dire, les idées qui sont véhiculées, avec quels versets, comment on explique ces versets, en fait, donc vraiment très bien fait, il date d'il y a quelques années maintenant, mais voilà, c'était vraiment intéressant. Le deuxième livre, c'est la prospérité, ici, il y a toute une série d'auteurs, dont John Piper, donc un pasteur américain. Hein. Là aussi, c'est bien fait. Lui, il ne se trouve pas gratuitement, ou alors que la version anglaise, je crois. Voilà. Des articles de Benjamin Hagen, le site Tout pour sa gloire, pour ceux qui connaissent, hein, il y a des bons prédicateurs quand même là-dessus. The Gospel Coalition, différentes vidéos YouTube, hein, John Piper, MacArthur, des grands classiques en fait. Hein. Et du coup, je me suis coltiné aussi, pour se faire un avis complet, bah, des gens qui prêchent la prospérité. Donc écoutez une étude biblique de Kenneth Copeland, d'aller voir sur le site internet et lire les trucs. C'est pas facile, je vous assure. Parce qu'en fait, on est déjà énervé dès qu'on a lu deux phrases. Et on se dit, mais c'est n'importe quoi. Et il faut se calmer, il faut le lire en entier et y réfléchir, mais voilà. Mais pour dire que j'ai été jusqu'au bout de la démarche d'aller lire ce que les gens en disent eux-mêmes, en fait, hein, pour pas juste avoir des on-dits. Donc la doctrine de la prospérité, qu'est-ce qu'elle enseigne? On peut le résumer là-dedans, ça c'est la définition qui est donnée par Eucneff, elle est bien parce qu'elle est concise. Hein. C'est en plus du salut, Jésus promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé et le succès. C'est assuré de la part de Jésus, d'accord? Et ça dépend de vous, si vous mettez en œuvre votre foi. C'est la doctrine. Ne me regardez pas en disant non, j'y crois pas. Hein. Mais la doctrine, c'est ça. C'est très résumé, mais c'est ça. Et dans certains prédicateurs, certains mouvements ou sous-mouvements, il y a l'idée aussi d'être libéré des influences démoniaques. C'est souvent lié à ça. Pas tout le temps, hein, mais on en parle quand même régulièrement. Donc, l'évangile de prospérité, alors on entend doctrine de prospérité, évangile de prospérité, on entend aussi le mouvement parole de foi, parce qu'il y a une part importante qui est donnée à la foi, dit dans la définition, à ceux qui mettent en œuvre leur foi. C'est très important parce que c'est votre foi qui vous permet de tout avoir, en fait, dans cette doctrine-là, hein, je précise. Si vous voulez être riche, faut juste mettre en œuvre votre foi parce que tout est promis dans la Bible. Si vous êtes en bonne santé, c'est pareil, tout est dans la Bible, il n'y a plus qu'à avoir la foi et... Voilà, on revient à ce que me disaient les propriétaires du gîte. Hein. Si vous êtes encore malade, c'est que vous n'avez pas assez de foi. Donc c'est un discours très culpabilisant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est quelque chose qui, du coup, s'autoprotège. Parce que s'il y a un raté, on dit, bah, regarde, t'as vu, ta doctrine, ça ne marche pas. Bah non, c'est ta faute, t'as pas assez de foi. Voilà. Donc c'est imparable comme discours, en fait. Hein. Donc, c'est pas une dénomination, hein, c'est pas comme les églises baptistes, les églises évangéliques, pentecôtistes ou tout ce que vous pouvez trouver comme dénomination. C'est un mouvement, en fait. C'est-à-dire que c'est une doctrine qui se propage. Comme dit, il y a un curseur entre le 0 et le 100%. Alors, il y en a qui sont en plein dedans. Hein, mais on peut le retrouver par petites doses dans d'autres églises. Et voilà, il y a tous les niveaux. Hein. Il y a des gens qui le prêchent de manière un peu plus sournoise que d'autres. Mais ça se reconnaît dans les discours. On le retrouve un petit peu partout. Donc il n'y a pas moyen, c'est la difficulté, comme c'est un mouvement, que ce n'est pas identifié, vous n'avez pas église de prospérité affichée sur le front de l'église. D'accord, vous n'arrivez pas avec un mur église de prospérité. Sinon ce serait facile, on les reconnaîtrait et on les fuirait. Malheureusement, ce n'est pas comme ça, et c'est des églises qui ont des dénominations particulières ou des mouvements, hein, parce que des fois c'est les gens qui ont créé leur propre système en fait. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, donc ça pourrait être le ministère de Michael Terrier, voilà. MMT, Et puis on crée un truc comme ça, rigolez pas, hein. La plupart des grands prédicateurs de la prospérité, ils ont leur ministère. Kenneth Copeland Ministries. Il a son mouvement à lui, c'est plus simple. Puis comme ça, l'argent, il va que chez lui et pas chez les autres. Donc c'est diffusé dans les églises et c'est diffusé dans les églises qui sont même juste à côté de chez nous. Dans l'un des épisodes plus tard, je vais essayer de vous servir des exemples à chaque fois, hein, juste de sites internet, d'églises. Il y a des gens dans le coin, en fait. Hein. Voilà, bon, je vais balancer, mais tant pis, dans les valeurs sûres. Et mon père était à la Cité des Miracles, à Moucron. Et quand Ira l'a su, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, ton père? Il faut qu'il fuit cette église. D'accord? Et il y en a d'autres comme ça. Mais ça, voilà, c'est un exemple assez évident. Et quand vous lisez, vous allez voir sur le site internet, ça saute aux yeux, quoi. Mais, je vous dis, ça se diffuse dans toutes les églises. Et voilà, il faut participer à rien de tout ça, quoi. Donc, la doctrine de prospérité, il y a un lien avec le pentecôtisme. Alors, en disant ça, on peut vexer des pentecôtistes. C'est pas que tous les pentecôtistes sont dans la prospérité et que tous les prédicateurs de la prospérité viennent du pentecôtisme. Mais dans l'histoire, ça a démarré avec une déviation du pentecôtisme. D'accord ? Donc il ne faut pas tout mélanger, mais juste historiquement, c'est bon de le savoir. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, avec le pentecôtisme qui se développe dans certains pays, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique, et bah la doctrine de prospérité, elle y passe d'autant mieux, en fait. Bon, le pentecôtisme, il y a quand même une tendance à insister sur l'esprit, hein, sur la libération, sur toutes sortes de choses. Et donc, ça peut vite glisser vers cette doctrine-là. Donc, ça a démarré après la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si je l'ai écrit. Non, tant pis. Et en fait, les gens qui étaient adeptes de cette théologie-là, donc les premiers qui l'ont, alors les fondateurs, je ne sais pas si on peut dire, il n'y a pas un acte fondateur, hein, mais les grands noms qui sont connus, qui ont l'air d'être au démarrage du mouvement, c'est ces noms-là, en fait, hein, Kenneth Hagin, Oral Roberts et Kenneth Copeland, alors, tous des Américains, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça vient en France aussi. Hein. C'est juste que les grands connus, ceux qui ont fait leur beurre là jusqu'ici, c'était essentiellement les Américains. Si vous cherchez les classements financiers, on retrouve aussi maintenant beaucoup d'Africains, en fait, parce que ça prend beaucoup en Afrique. Et la raison, elle est facile, hein, c'est que ça surfe sur le besoin des gens. Là où il y a des gens pauvres, bah, doctrine de prospérité, ça marche bien, puisqu'on vous promet d'être riche. Voilà. Donc nous, jusqu'ici, on était peut-être encore un peu trop riches pour succomber à ça, mais c'est en train d'arriver et ça se diffuse sans beaucoup de problèmes, finalement, quand on voit la taille des églises. Ça s'est répandu beaucoup aussi dans les années 80 avec ce qu'on appelle le télévangélisme. Donc des pasteurs qui faisaient des grands shows à la télé, hein, ou à la radio. Et donc, ils ont des moyens de diffusion qui sont importants, ces gens-là. Ils sont pétés de thunes, on peut le dire comme ça. Hein. Ils ont plein d'argent. Et donc, ils ont les moyens aussi de diffuser leur doctrine pour que ça leur apporte encore plus d'argent, hein, ça reste l'idée. Mais voilà, ils ont des moyens que nous, ici, petite église évangélique d'Hasbrook, on n'a pas. On n'a pas des millions, on n'a pas des centaines de milliers non plus. Des dizaines de milliers. Bon, bref. Les noms connus, alors ça, c'est des noms connus historiques. Après, il y en a plein d'autres. Enfin, si on veut faire des listes, on peut en faire des centaines. Hein. Mais voilà, Robert Tilton, Pat Robertson, ceux qu'on connaît aussi. Alors, la 90% de ces gens-là, ils étaient sur le topchrétien.fr à une époque, hein. Ça vous dit un peu l'idée du top chrétien, malheureusement. On les trouve moins. On voit encore un peu de Joyce Meyer. J'ai trouvé du Joel Osteen aussi. Mais voilà, on avait Pat Robertson, Joel Osteen, donc beaucoup sur le top chrétien. Joyce Meyer aussi, Benny Hinn, il est archi connu. Hein. Creflo Dollar, qui porte bien son nom. Guillermo Maldonado. Et alors, c'est pas Paul White, c'est Paula White, c'est une dame. Bon, c'est des grands noms, il fallait en choisir, mais on pourrait faire des listes complètes. Hein, d'accord. Mais ceux-là, c'est vraiment les plus connus. Et en tout cas, parmi les Américains, les plus riches aussi, parce que les plus connus, enfin, tout ça s'est mélangé. Hein. Donc, les fondateurs du mouvement, les gens connus. Voilà, juste pour vous donner une idée des moyens qu'ils ont, je veux mentionner la chaîne de télévision TBN, c'est américain. Hein. Donc, Trinity Broadcasting Network, qui a été fondée en 1973 par l'un des trois qu'on a vu tout à l'heure. J'ai encore oublié lequel et je ne l'ai pas noté. Mais voilà, c'est le réseau de télévision religieuse le plus étendu au monde. Au monde. Alors, je dis bien télévision religieuse, hein. Ce n'est pas une catégorie générale. Et dans la catégorie des médias généraux, c'est la troisième aux États-Unis, derrière la Fox et la CBS. Donc, c'est des noms qu'on entend, hein, de chez nous. C'est les seuls médias qu'on entend presque jusqu'ici en Europe. Ça vous donne un peu la grandeur, et donc ça s'est diffusé sur plus de 70 satellites, 118 000 chaînes de télé sur le câble et dans plus de 75 pays au monde. Voilà, c'est une force de frappe qui est assez incroyable. Donc, c'est juste pour vous dire, hein, ce n'est pas trois, quatre églises comme ça, ce n'est pas une petite doctrine qu'on entend, il y en a une à Paris, une à New York, c'est diffusé absolument partout dans le monde. Et je ne cite pas de site internet encore, enfin j'en ai déjà cité, mais je n'ai pas des listes, mais vous pouvez trouver des tonnes de sites internet qui diffusent cette propagande-là aussi. Donc, si vous écoutez des prédications sur internet, si vous lisez des articles, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des choses comme ça. Et. Petite mention en bas, spéciale pour Hillsong, hein. C'est aussi les églises Hillsong qui fonctionnent de concert, c'est le cas de dire, avec les chansons Hillsong, hein, la musique. Tout ça aussi, c'est un bloc sacrément financier, hein, quand vous cherchez, et c'est la doctrine de prospérité à plein pot aussi. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas très fan d'Hillsong. Alors, il y a des belles chansons, certes, mais comme l'arrière-plan, il est vraiment, il n'est pas bon, ça reste périlleux, ça reste délicat. C'est pas facile de se décider sur certaines chansons. Donc l'objectif de voir tout ça, on vous dit c'est très générique aujourd'hui, mais au moins vous aurez les idées claires sur ce que c'est. De une, comprendre la parole correctement. C'est important, c'est pas juste dénoncer les choses qui vont pas, c'est prendre les versets, les lire et voir comment il faut les comprendre et comment il faut pas les comprendre. Parce que le grand classique de la doctrine de prospérité, c'est de prendre un verset, de couper ce qui est avant, couper ce qui est après, de le sortir, regardez, le Seigneur, il veut que vous soyez riches. Et exclu de son contexte, vous lisez comme ça, vous dites bah oui. Et en fait, la plupart du temps, vous allez voir, quand on va reprendre les versets sur lesquels il s'appuie, quand vous lisez quelques versets avant, quelques versets après, sans aller même les chapitres, hein, mais rien que ça, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas de ça dont il est question. D'accord? Donc c'est une manière de lire la parole qui est importante, de toujours bien lire dans son contexte, de ne pas sortir un verset et d'asséner des versets aux gens comme ça. C'est aborder des sujets, hein, sur le salut, la foi, la souffrance. Bon, on le fait déjà régulièrement, mais voilà, là on le fera, mais dans cette optique-là. C'est apprendre à reconnaître la doctrine. Normalement, quand vous lisez des choses, ça va, pic, il y a le petit drapeau qui se lève, attention, c'est de la prospérité. Et au plus on est habile avec ça, au plus on va s'en sortir rapidement, l'identifier rapidement et se dire, ok, stop, j'arrête de lire. Je ne veux pas être pollué par ces choses-là. Et bien sûr, c'est combattre les fausses doctrines. On va y venir après, hein, mais on ne peut pas juste tolérer ça et se dire bah moi j'y crois pas et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais en fait, on doit se battre contre ça. On ne doit pas laisser ça porter du fruit parce que ça finira par nous entourer partout. On perd des gens à cause de ça en fait. Il y a des gens qui échappent au salut, qui vont à la perdition, dans quel sens vous regardez, à cause de cette doctrine-là. Et donc, il faut se battre pour que les gens y soient pas perdus à cause de ça. Et ça, c'est un rôle, c'est pas que le rôle des anciens, de dire, bah, voilà, on va envoyer des anciens en croisade, je sais pas, contre la doctrine de prospérité. C'est un rôle de chacun, en fait, hein. Quand vous avez des gens, comme les propriétaires du gîte, de réussir à leur dire, de leur glisser, de attention, et de voilà, d'encourager les gens à se renseigner dans quoi ils sont tombés pour les sortir de là. Et ça, c'est chacun d'entre vous. Nous, on a des connaissances, mais c'est limité. Mais si chaque personne de l'Église, elle a une connaissance qui est là-dedans, elle lui dit, écoute, attention, tu es là-dedans, maintenant, je comprends un peu mieux ce que c'est, fais attention. Eh ben, on peut sauver des gens comme ça. Donc combattre les fausses doctrines. Vous allez me dire, bah, les fausses doctrines, moi j'y peux quoi, ça ne me concerne pas trop. Mais en fait, dans la Bible, la plupart des auteurs, ils ont combattu des fausses doctrines. C'était l'objectif de la parole, c'est de combattre les fausses doctrines. C'est de propager la bonne, bien sûr. Mais dans beaucoup d'épîtres, il y a derrière l'idée qu'il y avait une fausse doctrine qui était en train de se propager. Et l'auteur derrière dit, attention! On est en train de vous dire ça, c'est pas vrai. D'accord? L'exemple, c'est 1 Jean ici, 1 Jean 1. Jean, il combattait le docétisme. Docétisme, c'est quoi? C'est les gens qui enseignaient que Jésus, c'était pas vraiment un homme. Il avait qu'une apparence de corps physique, mais c'était pas vraiment un corps physique. Pourquoi? Parce que la matière, c'est mauvais. Voilà. Et donc, si la matière, c'est mauvais, Jésus, il n'a pas pu avoir un corps, quelque part. On le comprend un peu quand on lit les versets de Jean. Alors, je ne les ai pas sur ma feuille. 1 Jean 1, verset 1, le tout début. Hein, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et il continue. Et il insiste bien sur le côté réel, en fait, du corps de Jésus, pas juste une autre chose. Et il dit plus loin, 1 Jean 4, versets 2 et 3, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Il dit ça à cause de ça, parce qu'il est en train de se battre contre une doctrine qui dit non, non, Jésus, c'est une forme d'esprit, c'est matérialisé, mais c'est pas la matière, quoi. L'épître aux Galates, ça lutte contre le légalisme, qui dit que les croyants non-juifs, ils doivent eux aussi observer la loi de Moïse. Galates 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Et un peu plus loin, Galates 5, 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Colossiens, qui se bat contre le syncrétisme. Syncrétisme, c'est je fais mon mélange, ma tambouille avec toutes les religions et je fais ma propre religion, hein, quelque part. C'était un mélange de plein de choses, combinaison de croyances et de pratiques. Donc, il y avait une influence, il y avait des influences grecques, en fait, on en parlait avec Laurent juste avant, des rites judaïques, un culte des anges, voilà, on fait une petite tambouille et puis je fais ce qui m'intéresse. Et ça, on le voit pas mal autour de nous aussi maintenant, hein, des gens qui piochent un peu dans ce qui les intéresse pour faire leur religion. Donc Colossiens 2, versets 8 à 10, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » On a finalement encore aussi quelque chose sur la nature humaine de Christ, là on en parlait mardi avec Manu à l'étude biblique. Hein. Il était Dieu et il habitait corporellement dans un homme, c'était un homme en même temps. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et si on a tout pleinement en lui, on n'a rien besoin d'autre. Il y a d'autres épîtres hein, qui se battent contre le libertinage moral, c'est l'idée d'aller voir d'autres dieux. Mais on est libre en Christ, en fait. Donc on fait ce qu'on veut. On n'a plus de problème, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu ça l'idée. Le déni de l'incarnation, hein, Christ n'est pas vraiment venu en tant qu'homme, c'était uniquement un dieu. Et, ou alors de la divinité de Christ. Christ était juste un homme, il n'était pas dieu du tout. Vous voyez, c'est tous des discours qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas bibliques surtout. Le déni du retour de Christ, il ne reviendra pas en fait, c'est terminé. Ou alors il est déjà revenu, on ne l'a pas vu. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. La première épître à Timothée, elle met en garde à trois reprises contre les fausses doctrines. Et il encourage aussi à propager la bonne doctrine, enseigne la saine doctrine des évangiles. Donc voilà, c'est des exemples, on peut en prendre plein. En fait, presque chaque épître, je vous dis, ça vient lutter contre une tendance qui était mauvaise, une doctrine qui était mauvaise. Donc c'était... L'ensemble des écrivains, des écritures, ils se sentaient concernés par ça. Il n'y a pas de raison que nous, on se dit, bah, non, moi, je vais laisser les anciens faire le travail. Bon, je le fais ici, hein, c'est bien, mais ça n'empêche pas de le faire chacun à notre niveau. Ils auraient pu simplement les ignorer. Si on prend on se dit, non, moi, ça ne me concerne pas. Eux, à l'époque, ils auraient dit, bah, moi, je continue à prêcher la bonne doctrine, et puis le reste, c'est pas grave, on ignore, et ça va finir par s'arrêter tout seul. C'est pas le cas. Ils ont combattu la doctrine. C'est pour ça que je pense que c'est notre rôle aussi. Alors, on peut entendre des fois l'idée que si les gens ils vont dans ces églises qui supportent cette doctrine-là, c'est un peu une forme de moindre mal. Parce qu'ils vont dans une église quand même. Entre ça ou rien, finalement, c'est peut-être mieux d'aller de ça. Au moins, ils entendront l'évangile. Et c'est pas vrai. Ça, c'est une facilité qu'on peut avoir justement pour ne pas se battre. Mais c'est pas vrai. Dans ces églises, on ne prêche pas l'évangile. Et je veux insister lourdement là-dessus, parce que c'est important de savoir que les gens qui sont dans ces églises-là ne sont pas sauvés. Le Seigneur, il les sort après, mais on ne peut pas rester dans une église comme ça. Ce n'est pas possible. On ne prêche pas l'évangile. Alors, je vais y revenir là un peu en longueur, hein, mais je vais vous donner quelques éléments là-dessus. Mais c'est important de noter ça, parce que déjà même le fait que ça s'appelle évangile de prospérité, ce n'est pas un évangile en fait. Moi j'aime bien dire doctrine de prospérité justement pour éviter de dire ça, parce que ça me chiffonne en fait. Évangile, il n'y en a qu'un, il est vrai, il est biblique et il n'y a rien d'autre. Et ça ce n'est pas un évangile. Ça amène des gens à la perdition. L'évangile, ce n'est pas ça. Donc c'est un faux évangile parce que c'est des discours qui chatouillent les oreilles. Ça fait du bien à entendre. Le Seigneur, il veut que tu sois riche, il veut que tu sois en bonne santé, il veut que tu sois, qu'il y ait du succès dans tes entreprises. C'est bien, mais ce n'est pas ce que dit la Bible, en fait. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est faux. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est tout à fait ça, l'évangile de prospérité. C'est entendre des choses agréables, se donner des docteurs, voilà, hein, en fonction de ce que j'ai envie, et à côté de ça, se détourner de la vérité. Quand on adhère à ça, on se détourne de la vérité, on n'entend pas la vérité. On entend toutes sortes de choses. Hein. Maintenant, on entend même des messages qu'utilise la Bible comme un livre de développement personnel, en fait. Hein, parce que la Bible, il y a plein de trucs encourageants dedans aussi. Hein. Faut pas l'évacuer. Et avec quelques versets bien cités, on voit comment on peut devenir heureux, comment on peut rétablir son couple, comment on peut réussir dans la vie. Et voilà. Et il y a un vernis plus ou moins épais de chrétiens là-dedans. Mais le but, ça reste de faire du bien aux oreilles, en fait. C'est plaisant d'entendre ça. Malheureusement, le message biblique, le premier message biblique, c'est il faut se repentir de notre péché. On a péché, on doit se repentir, sinon on ira en enfer. C'est pas hyper plaisant à entendre, mais c'est la réalité. En fait, dans nos églises, on devrait pas avoir des messages de développement personnel. L'encouragement, il n'y a aucun problème, d'accord ? L'encouragement, l'exhortation, tout ça. Mais un message de développement personnel, ça ne colle pas en fait. Dans la Bible, on a des messages de réduction personnelle. Je ne sais pas comment il faut le dire. Hein, voilà, on nous enseigne dans la parole à laisser la place au Seigneur. Moi, je diminue et lui, il grandit. Donc, c'est tout sauf du développement personnel. Même si en vrai, quand je suis au Seigneur et quand je lui laisse la place, je suis tellement bien. Mais ce n'est pas l'objectif en fait. Et c'est ça le point principal, c'est quoi l'objectif ? Dans la doctrine de prospérité, l'objectif, c'est moi. C'est ma richesse, ma santé, ma prospérité. Dans la Bible, l'objectif, c'est le Seigneur, c'est Dieu. C'est lui qui est au centre. L'évangile de prospérité, c'est annoncer aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, il n'y a pas besoin d'être transformé, d'être régénéré pour entendre ça. Pour adhérer à l'évangile de prospérité, il suffit de rester humain, en fait. On a tous envie d'être riche, d'être en bonne santé, d'avoir du succès. Donc, il n'y a pas besoin de changer. Si vous écoutez, si vous adhérez à cette doctrine-là, vous pouvez rester tel que vous êtes, il n'y a pas de problème. Voyez. Et du coup, ça, bah, c'est en opposition complète avec l'Évangile qui nous dit il faut mourir à toi-même et il faut se convertir, faire demi-tour dans ta vie. Si on offre aux gens ce qu'ils veulent pour venir à Dieu, alors ce verset-là, il n'y a plus de sens. Alors, 1 Corinthiens 2, on pourrait lire en complet, hein, mais ça va être compliqué. Juste verset 14, « L'homme animal, ou l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et il y a tout un joli gros mot, une dichotomie, une séparation vraiment nette dans la Bible entre les choses charnelles et les choses spirituelles. Et les deux ne sont pas compatibles, en fait. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Et si on se tourne vers les choses comme ça, matérielles, alors on se détourne, en fait, on est avec le dos à l'opposé des choses spirituelles. J'aime beaucoup pareil, je le pique tel quel parce que je n'ai pas trouvé comment dire mieux, la formulation de John Piper qui dit « Dieu n'est pas venu satisfaire les appétits non changés de notre ancienne nature, il est venu donner de nouveaux appétits ». Et c'est ça la nouvelle naissance en fait, c'est avoir des nouvelles envies. Quand on est de nouveau, on n'a pas envie de devenir riche en pleine santé, on veut aimer le Seigneur encore plus, on veut le servir, on veut arrêter de pécher. Voilà. Toutes ces choses qu'on ne retrouve pas dans l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est un faux évangile parce qu'on va à Jésus pour une mauvaise raison. Et ça, c'est pas nouveau. En fait, dans l'évangile de Jean, on voit déjà, des gens qui vont à Jésus. Et pourquoi ? Pour les miracles qu'il a accomplis. Ils vont à lui parce qu'il a fait plein de miracles. Ça, c'est Jean 2, versets 23 à 25. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on le rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Finalement, se convertir à cause des miracles et en rester là, bah, il manque quelque chose en fait. Et ça, c'est ça, la prospérité, c'est ça. Vous tournez vers Dieu, pourquoi ? Bah, pour votre intérêt, pour devenir riche, pour obtenir tout un tas de trucs. Donc c'est pas le Dieu, c'est pas le Jésus qu'on connaît dans la Bible. L'évangile de prospérité, c'est une corruption du vrai évangile. Parce que c'est pas le problème juste qu'il y a quelques erreurs dans l'évangile de prospérité qu'il faut redresser, en fait. C'est le fait que l'évangile de prospérité, ça n'est pas la vérité. On ne présente pas la vérité aux gens. C'est pour ça que je vous dis, si on dit à quelqu'un, bah, il va dans une église comme ça, mais bon, c'est moins pire que rien. Non, parce qu'il n'entendra pas la vérité. Alors, effectivement, le Seigneur, il peut toujours toucher les cœurs, hein, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas une raison non plus, en fait. Je vais y revenir encore après, il ne faut pas que je m'embrouille dans mon texte. Le vrai évangile n'est pas prêché, en fait. Et ça, ça fait penser aux pharisiens en Matthieu... Je l'ai sauté. Ouais. Matthieu 23, verset 13. Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et là aussi, les pharisiens, de quoi ils parlaient ? Bah, de la Torah, de la Bible. Enfin, la Bible, Ancien Testament, quoi. Mais ils parlaient des prophètes, ils parlaient de Moïse, ils parlaient tout un tas de choses. On pourrait dire, bah, c'était mieux que rien. Mais finalement, on voit qu'eux, ils n'allaient pas au ciel et ils empêchaient les autres d'y aller aussi. Et la doctrine de prospérité, c'est la même chose, en fait. Il y a beau y avoir des versets bibliques, des choses comme ça, on ferme le ciel aux gens qui vont là-dedans. Et l'image d'une bouteille d'eau qui serait pure et dans laquelle on met une goutte de poison mortel. Est-ce que vous buvez la bouteille d'eau en disant « Bah ouais, mais le reste, c'est de l'eau, c'est bien, il y a quand même 99% de bonnes choses. » Bah non. La doctrine de prospérité, c'est ça, en fait. Et je peux vous assurer qu'il y a plus qu'une goutte de poison dedans. L'apôtre Paul, il parle aux Galates, voilà, on est au bon verset, Galates 1, verset 6 à 8, et leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Donc Paul, il n'était pas en train de se dire « Bon, voilà, allez, c'est un moindre mal, hein, ce qu'on vous explique, vous êtes quand même pas loin de la parole. » Il a dit « Non, 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 il y a l'évangile, et si ça s'écarte de ça, alors c'est maudit, et voilà, il faut le détruire, il ne faut pas l'écouter. » Et ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, il le dit, hein, je fais que paraphraser, mais il dit « c'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui pervertissent l'évangile. » Donc Paul, finalement, il ne considère pas que juste rajouter quelques exigences de la loi, un petit peu de circoncision, faire quelques rites, tout ça, c'était un moindre mal. Il considère ça comme une perversion de l'évangile. L'évangile de la prospérité, c'est un échange de valeurs, en fait. Vous pouvez obtenir... Alors, je vais le tourner dans l'autre sens. Dans les vrais évangiles, ce que vous obtenez... c'est le pardon des péchés, le salut, la présence de Dieu dans votre vie. Bon, il y a tout un tas de trucs, hein, on y reviendra une autre fois. Et qu'est-ce qu'on vous donne à la place dans l'évangile de prospérité ? Bon, quelques biens matériels. Puis quand vous allez mourir, vous ne les emporterez pas avec. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger ça, en fait ? Il y a vraiment, on est en train de vendre aux gens des choses qui ont zéro valeur, en fait, par rapport à l'évangile. C'est en ça aussi que c'est un faux évangile. On donne des choses aux gens qui n'ont aucune valeur et on essaye de les rassasier avec ça. Alors, j'ai encore piqué une citation de quelqu'un, mais je la trouvais bien aussi. Si j'écrivais mieux, je les ferais moi-même, je ferais des citations de moi-même. Hein, mais... Le problème, non, Albert Moller, je crois que c'est un... Je l'avais noté. Alors, je ne le connais pas spécialement, mais sa citation, je l'aime bien. Hein. C'est un théologien baptiste. Pardon. Il dit « Le problème central de l'évangile de la prospérité n'est pas qu'il offre trop, mais qu'il offre trop peu. L'évangile de Jésus-Christ apporte le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. L'évangile de la prospérité promet une Ferrari. » Bon, on serait content d'avoir une Ferrari. Je ne vivrais pas longtemps dans la rue, je pense, mais... mais la Ferrari, vous avez beau la voir, elle finit par tomber en ruine. Hein, et même si elle va jusqu'à la fin de votre vie, après votre vie, il vous reste quoi ? Plus rien. Et ce que vous offre l'évangile, c'est d'une valeur tellement plus précieuse. Je continue hein, pour vous montrer que c'est un faux évangile du début à la fin, en fait. Hein, ce n'est pas un moindre mal. Dans l'évangile de prospérité, le salut et la foi, ils sont complètement déformés, en fait. Et ce n'est pas ce qu'on lit dans les évangiles. Dans le salut biblique, bon, j'ai dit juste avant, pardon, c'est centré sur le pardon des péchés, sur la réconciliation avec un Dieu saint et la vie éternelle. C'est basé sur le sacrifice de Jésus-Christ et sur la grâce et pas sur les œuvres. La conséquence de ça, c'est une vie transformée qui cherche à glorifier Dieu. Ce n'est pas une vie prospère qui nous satisfait. Le salut de la prospérité, c'est un moyen d'obtenir une vie meilleure ici et maintenant. La santé, la richesse, le succès, voilà, ces trois-là qui reviennent tout le temps. Le but n'est pas de fuir le péché pour se rapprocher de Dieu, mais fuir la pauvreté et la maladie pour obtenir une bénédiction matérielle. Quand on les met côte à côte comme ça, on se rend bien compte que c'est à l'opposé, en fait. Hein. Dans l'évangile de la prospérité, pareil sur la foi, en fait. Hein. La foi, ce n'est pas la confiance en Jésus, en fait. Hein. C'est une force, c'est un principe spirituel, c'est quelque chose qu'on manipule pour obtenir ce qu'on veut. Et ce n'est pas du tout ça dans l'évangile. Dans la doctrine de prospérité, on déclare des choses. Il y a l'idée de proclamer, déclarer, et c'est pour ça que ce monsieur, il va en hélico au-dessus de Colmar, là, pour proclamer, parce que dans son système à lui, dans sa doctrine, quand je proclame, j'obtiens. Si j'ai assez de foi, bien sûr. Si ça ne marche pas, encore une fois, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Mais voilà, la foi, c'est juste un outil pour obtenir ce que je veux. Et ce n'est pas ça du tout qu'on lit dans la parole. Nous, on le lit comme une relation personnelle avec notre Dieu. C'est un faux évangile parce que c'est une doctrine qui vient du diable. Je veux dire, je suis un peu violent, mais c'est comme ça. J'insiste bien sur le fait qu'on ne parle pas juste d'une théologie un peu mal ficelée, hein, avec quelques erreurs, encore une fois. La prospérité, c'est un faux évangile qui amène à la perdition. Et ça vient du diable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est le diable qui joue sur nos envies. Lui, il essaye de nous faire miroiter ça. Et à qui il l'a fait? Ben, Jésus. Dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il tente Jésus, il dit « Ah bah tiens, tu peux transformer ça en pain, tu vois, t'as faim, mais tu pourrais avoir à manger là. Les richesses au lieu de la pauvreté aussi, t'as rien, mais moi je te promets toutes les richesses du monde. Et je lui promets toute la gloire du monde aussi. » Et en fait, les trois éléments de la doctrine de prospérité, on les retrouve étonnamment dans la tentation dans le désert. Donc vous voyez qu'il n'a pas changé de tactique en fait. Hein. C'est pour ça, ça vient de lui et ça ne peut pas être bon. Comme ça vient de lui, ça ne peut pas être bon. Donc on ne peut pas laisser les gens aller dans des églises comme ça. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas aller les prendre par le callback, les sortir de là, dire « sors de là !» Voilà. Mais spirituellement, il faut se battre pour les gens qui sont là-dedans, parce qu'ils échappent au salut en étant là-dedans. Jean 2, versets 13 à 17. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'ai souligné le « vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu le malin » et après, il dit voilà, « n'aimez point les choses qui sont dans le monde ». Il y a vraiment ce « si on aime les choses qui sont dans le monde, on est sous l'influence du malin, d'une manière ou d'une autre ». Alors le Seigneur, il travaille, hein, il évacue ces choses-là au fur et à mesure de notre vie, il nous transforme, comme on avait dans la citation tout à l'heure, en fait, il change nos envies, le Seigneur. Ce n'est pas qu'on fait un effort pour dire, bon, ok, je vais arrêter de faire ça parce que ce n'est pas bien, mais le Seigneur, il change nos cœurs, en fait, et on n'a plus envie de le faire, ça vient de l'intérieur. Donc il y a vraiment ce lien dans ce passage-là, hein, et la convoitise, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout ça, ça ne vient pas du Père. Ça vient du monde, et le monde, on sait qu'est-ce qui est au pilotage derrière, qu'est-ce qui est aux manettes. Normalement, j'étais assez clair, là, non? Et je vous dis, je l'ai déjà entendu, ça. J'ai déjà entendu, bah ouais, mais c'est... Bon, c'est pas grave, au moins c'est une église, quoi. Au moins ils entendent l'évangile, au moins, voilà. Et c'est faux, en fait. Faut vraiment oublier ça. Ça, c'est un truc avec lequel on se rassure presque d'avoir rien dit et de ne pas aider les gens. Donc je m'arrête sur ces arguments-là, mais je pense que voilà, j'ai assez lourdé comme ça. Mais je voulais que ça soit parfaitement clair dans nos têtes. On ne se bat pas juste contre une petite erreur, et puis bon, ah, ça arrive, c'est pas grave. On est vraiment fondamentalement à côté quand on parle de cette doctrine-là. On entend aussi parfois, et je termine avec ça, que Dieu est grand, et qu'il peut utiliser même ces églises-là pour sauver des gens. Oui, oui, il est grand, et oui, il peut sauver des gens même dans ces églises-là. Mais vous savez, le Seigneur, il peut même sauver des gens en utilisant la drogue. Il peut utiliser l'alcool aussi. Il y a des gens qui sont dans l'alcool et c'est le chemin que le Seigneur a utilisé pour les sortir et pour se faire connaître à eux. Il y a des gens qui sont dans la drogue et qui sont sortis de là par le Seigneur. Mais est-ce que du coup, il faut forcément aller prendre de la drogue et boire en disant, bah, le Seigneur est grand. Bah non, mais les églises de la prospérité, c'est la même chose. On peut se dire, bah ouais, mais c'est un moindre mal. Non, non, et le Seigneur est grand, oui, mais... L'idéal, c'est d'aller dans une bonne église avec une saine doctrine. Et c'est pas de se jeter dans la gueule du loup et dire le Seigneur, il va me délivrer. Là, on est en train de tenter le Seigneur, en fait, quand on fait ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On va encore en faire un petit paquet de prédications là-dessus, hein, je vous assure. Mais on continuera en fait la fois prochaine. Alors déjà avec les richesses, la prospérité, mais je vous dis cette notion de richesse et de richesse spirituelle en fait. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, il y a toute une notion de richesse effectivement, d'héritage, mais tout ça c'est spirituel. Et en fait c'est le lien, il est fait avec ma prédication du mois de... Je sais plus, on est quand là, en septembre? Non, en octobre. En septembre alors? Comprendre les choses spirituellement. Et en fait, c'est tout ça, ça se suit. Hein. Je ne vous l'avais pas dit dès le début, on est dans la doctrine de prospérité. Mais la doctrine de prospérité, elle prend les choses de manière matérielle. On lit, bah tiens, on a un héritage en Christ. Ah bah voilà, c'est des millions d'euros. C'est pas du tout ça. L'héritage, il est spirituel avant tout. Et ces gens-là, bah, en fait, qui prêchent ces doctrines-là, ils sont malheureusement un peu comme les apôtres au début qui ne comprenaient pas trop. Hein. Vous n'avez pas pris de pain avec vous. Mince, on a oublié de prendre du pain. Vous vous souvenez de ça, hein? Voilà. Ces gens-là, ils sont restés là, en fait. Et du coup, ils envoient des choses qui sont purement matérielles, purement physiques. Je m'arrête. Je suis inépuisable sur le sujet maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la saine doctrine. Seigneur, la Bible est suffisamment claire. Et quelque part, il faut le faire exprès pour ne pas comprendre ces choses, pour enseigner l'inverse. Seigneur, on prie pour les gens qui sont dans des églises de ce genre-là. Seigneur, il y en a pas loin de chez nous. Seigneur, à quelques dizaines de kilomètres dans autour de l'île, Seigneur, et on te prie que tu sortes les gens de ça, Seigneur. C'est une source de perdition pour eux. Et Seigneur, on ne veut pas que les gens se perdent, on veut qu'ils soient sauvés. On te prie d'agir, nous montrer aussi dans nos vies personnelles comment on peut discuter avec les gens quand ils sont là-dedans. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? On te prie qu'on ne soit pas insensible à avoir notre propre salut, mais qu'on puisse aimer ces gens-là. Seigneur, donne-nous de l'amour aussi pour ceux qui prêcheraient cette doctrine, mais de les reprendre, Seigneur, avec amour. Et Seigneur, on prie aussi de les changer, leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont en train de faire, la responsabilité énorme qu'ils ont d'amener des gens à la perdition. Seigneur, aide-nous, donne-nous de te servir, d'être utile entre tes mains. Amen.